Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Tanguy Métrope. Il est membre du Conseil national du Modem pour la Bretagne. Et il a fait la route pour venir jusqu'à nous depuis la région de Dinan. Voilà, je ne trahis pas de secret. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Alors l'actualité nous rattrape, je précise pour les auditrices et auditeurs que vous êtes également enseignant et donc l'actualité nous rattrape avec ce drame de nos gens, cette surveillante qui a été poignardée à mort par un jeune élève, un très jeune élève, 14 ans, voilà ce qui interroge beaucoup au-delà de la stupéfaction, on peut le dire comme ça, et du drame aussi pour cet élève, parce qu'il faut le dire, quelle sera sa vie aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une crainte chez les enseignants, alors peut-être pas de se faire poignarder, mais de cette violence qui monte de plus en plus?
Oui, tout à fait. Alors d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Mélanie Grapinet qui est décédée, pour sa famille, et puis aussi pour toute la communauté enseignante et pour toutes les équipes pédagogiques qui sont profondément bouleversées par ce drame. Et j'ai une pensée toute particulière pour mes collègues surveillants, parce que ce sont des gens qui font vraiment partie de toute l'équipe pédagogique d'un établissement, que ce soit un collège, un lycée. Et j'ai une pensée particulière pour mes collègues surveillantes femmes, parce que là, effectivement, dans le drame de nos gens, on voit bien qu'il y a une question là. Il y a une question qui est sur la table, parce que le jeune qui a tué, en fait, il s'en est pas pris à une personne. Mmh. Hein, il a dit, il s'en prend une fonction. Mmh. Donc le rapport du procureur hier était assez cinglant.
C'était assez glaçant, c'était, finalement.
Oui, absolument. C'est vrai que c'était assez sidérant d'entendre, en fait, c'était une surveillante, c'est une équipe de surveillantes exclusivement féminine. Et effectivement, le jeune dit, j'ai décidé de tuer n'importe laquelle. Alors il y avait une remarque en amont, effectivement, je crois que il y avait eu un baiser avec sa copine, et il y a eu une remarque légitime d'ailleurs des surveillants qui lui ont dit ça se fait pas dans l'enceinte de l'établissement. Et sur des faits aussi je dirais banals et même dérisoires, on en vient assassiner quelqu'un. Alors c'est vrai que les questions qui se posent, il y en a plusieurs, mais je pense que vous voyez, là, justement, il y a quelques semaines un rapport qui est sorti par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est Naïma Moutchou, hein, le rapport Moutchou. Mmh. Et le rapport, justement, il s'intitulait « Rapport mineur et armes blanches ». Et donc là, effectivement, là, il y a un sujet, voilà. Et Naïma Moutchou devait venir à Rennes ce soir pour une conférence débat. Et donc, en fait, je voulais y assister, mais la conférence est annulée à cause du contexte. Mmh. Voilà. Et donc là, il y a des questions. Elle a bien ciblé le problème de l'achat d'armes blanches sur les réseaux sociaux. Donc, l'interdiction d'achat de poignards, par exemple. Donc, effectivement, je pense que ces mesures concrètes, il faudra les mettre en place. Le rapport des jeunes à l'arme blanche, voilà. Mais je pense qu'effectivement, la question de la répression, ça ne va pas suffire. Mmh. Ça va pas suffire.
On est dans un contexte particulier. Alors, il y a eu le Covid hein, qui a beaucoup éprouvé les jeunes hein, qui se sont retrouvés isolés, qui n'avaient plus de rapports sociaux, certains peut-être fragilisés. Mais là, on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une vague, une espèce de submersion de ces jeunes en détresse. Alors, on parle beaucoup de la santé mentale aujourd'hui. Hein, c'est une véritable préoccupation. Là, on a le cas d'un jeune qui n'était pas accro aux réseaux sociaux, qui n'avait pas, a priori, l'enquête le dira, mais de problèmes de santé mentale. Est-ce qu'on a affaire finalement à un jeune qui vient d'un milieu plutôt favorisé? Est-ce qu'on a affaire finalement à un jeune un peu en déshérence, qui a poussé tout seul, comme l'on dit, et je mets tous les guillemets qui s'imposent?
En fait, justement, là, je pense que c'est là que le rapport Moutchou est intéressant, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, parce que la question de la répression sur ce type de problème ne suffira pas si on ne s'attaque pas aux causes profondes du mal. Et là, effectivement, déjà Michel Barnier avait fait de la santé mentale une cause nationale, et qui a été reprise par le Premier ministre. Mais là, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse, la société doit s'intéresser, pas seulement les politiques, mais les familles, les responsables éducatifs, les psychothérapeutes doivent s'intéresser au fond du problème. Et là, je pense qu'effectivement, quand on voit que ce profil de jeune adolescent n'a pas forcément d'antécédents psychiatriques, etc. Alors, effectivement, on attend peut-être d'autres éléments, mais ça fait réfléchir. Et moi, je crois qu'il y a une question de fond, c'est le rapport qu'aujourd'hui les jeunes ont et notamment les jeunes garçons, parce qu'en fait, on se rend compte que ça concerne principalement des garçons.
On parle de 90%.
Voilà, hein. À la frustration. Et donc là, en fait, il s'en prend à une autorité, et à une autorité féminine. Et nous, on a remarqué dans nos établissements déjà qu'il y a des jeunes adolescents qui ont un problème avec l'autorité féminine. D'accord ? Et donc, voilà, quand il y a un ordre qui est donné par une autorité féminine, il y a un problème de frustration. Et en plus, les psychothérapeutes disent que les jeunes garçons ont plus de mal à gérer la frustration que peut-être les jeunes filles. Mmh. Et donc là, je pense qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux, le rapport des jeunes à la frustration. Comment on gère ce problème ? Et donc, effectivement, aujourd'hui, dans un cadre où on est une autorité qui doit exercer son rôle d'autorité, on doit faire comprendre aux jeunes qu'ils doivent accepter un cadre et respecter l'autorité instituée. Et donc ça, c'est un vrai sujet de société. Comment on accepte que des jeunes adolescents acceptent les consignes d'une autorité instituée.
Il faut effectivement remettre au goût du jour l'autorité. Est-ce qu'il faut aussi repenser la place des professeurs, des surveillants, c'est-à-dire justement par rapport aux élèves, ce rapport d'autorité. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, on est quand même dans une période où on peut parfois même tutoyer le professeur. Est-ce qu'il faut repartir un peu sur d'autres bases aujourd'hui ? Je ne veux pas dire qu'il faut revenir à une école très ferme, mais est-ce qu'il faut revenir à quelque chose de plus, peut-être, avec un rapport de hiérarchie, on pourrait le dire comme ça.
Oui, alors, revenir au vouvoiement, etc., bon, on pourrait revenir à des questions de respect plus à l'ancienne, mais je pense que c'est plus des détails. Moi, ce que je vois, en fait, c'est que, effectivement, en tant qu'enseignant, aujourd'hui, il y a une dimension qui manque dans le personnel éducatif, au niveau des formations, c'est le rapport de la psychologique de la jeunesse moderne. Une jeunesse moderne qui est régulièrement sur les réseaux sociaux, donc qui est confronté à un certain nombre de types d'images, de violences, même des tutos. On entendait à la radio tout à l'heure des tutos sur la violence, comment se suicider, etc. Ça pose un certain nombre de questions.
Or, ça pose la question des réseaux comme TikTok, par exemple.
Voilà, absolument. Je vous disais, je me rappelle la dernière fois, que 4h30 en moyenne sur TikTok pour des jeunes adolescents, ça pose une question, parce que c'est leur environnement mental. Mmh. Et donc, effectivement, forcément, ça fait partie d'une forme d'éducation. C'est pas que l'éducation parentale. Là, ça fait partie de leur culture, de leur environnement culturel. Et là, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire. Et moi, je sais qu'au niveau des enseignants, par exemple, nous, on n'est pas assez formés sur le plan psychologique. On a zéro minute de formation psychologique. Mais c'est pareil pour nos collègues surveillants. Ils n'ont pas vraiment de formation. Et là, je pense qu'il faut qu'on retravaille cette question de la formation, du rapport psychologique que les jeunes ont aujourd'hui. Voilà. Et donc, il y a vraiment des questions de formation à se poser. Et quand j'entendais aujourd'hui un infirmier scolaire pour 1500 élèves, un psychothérapeute pour 1500 élèves, les mêmes proportions, c'est clair que là, on est en carence d'effectifs par rapport à un problème qui ne fait que prendre de l'ampleur aujourd'hui. Donc là, il y a des vraies questions à se poser.
Avec aussi tous les codes, parce qu'il y a les codes avec les réseaux sociaux, les codes des jeunes, entre eux aussi, un langage approprié entre les jeunes. Il faut arriver à comprendre, à rentrer dans leur univers.
Oui, et je pense que ce qui va le plus difficile, c'est de faire passer un message aux jeunes, un message d'autorité, mais que ce message soit accepté. En fait, la frustration, elle vient quand le message n'est pas accepté. Et certains jeunes, en fait, se retrouvent en situation de frustration parce qu'ils ont ce sentiment d'injustice. C'est un sentiment d'injustice. On sait à quel point l'injustice chez les jeunes est un moteur de réaction et parfois violente. Et donc là, il faut faire passer un message, un cadre, qui soit accepté par des jeunes qui aujourd'hui, en fait, n'ont plus vraiment de cadre d'autorité. Donc, ce n'est pas une autorité forcément martiale, dirigiste, mais c'est faire passer un message, qui soit d'abord dans le respect. Et moi, ce que je veux dire, c'est d'abord une question de respect. Et quand on voit le manque d'empathie de ce jeune par rapport à la vie humaine,
Il n'y a eu aucun remords.
Et on avait déjà eu ce type d'exemple pour d'autres problèmes. Voilà, donc c'est quand même pas la première fois qu'il y a. Donc là, il y a aucun remords, aucune empathie. Donc il va falloir vraiment réfléchir à cette question du respect, et notamment du respect de la personne humaine, mais à la fois chez les jeunes, dans leur psychologie et dans le monde actuel. Le respect de la personne humaine, c'est une des valeurs aussi que nous, les héritiers de la démocratie chrétienne, le centre, c'est une des valeurs qu'on veut porter. Je pense que c'est un message d'avenir qu'on pourra aussi travailler encore aujourd'hui.
Alors, avec une question un peu plus politique, on a entendu évidemment passer l'émotion, l'idée de pouvoir faire progresser la loi, de pouvoir prendre des mesures rapides. On a entendu le Premier ministre parler d'interdire les couteaux. Est-ce que finalement c'est des mesurettes? Parce que voilà, on réagit un peu sur l'émotion. Est-ce qu'il faut aller chercher plus profondément du côté, là encore, de l'éducation, garder peut-être un côté coercitif, on l'entend bien, mais travailler plus sur l'éducation, ça rejoint un petit peu ce que vous décriviez tout à l'heure, et prendre des mesures rapides pour aussi avoir les moyens d'avoir des personnels. Hein, vous citiez l'exemple des psychologues ou des médecins scolaires qui sont en sous-effectifs. Est-ce que c'est là qu'il faut mettre les moyens?
Absolument. Alors évidemment, vous dites, le Premier ministre annonce des mesures qui peuvent paraître bien dérisoires. Bon, je pense que l'opinion publique attend quand même des mesures. Mmh. Donc effectivement, les portiques, on peut considérer que c'est anecdotique, mais pas tout à fait. Tout de même, hein, on ne peut pas se permettre de laisser entrer des jeunes avec des armes blanches. Donc ces petites mesures, c'est pas à négliger. Et on aurait tort.
Il n'y avait rien de péjoratif.
Absolument. Non, mais j'entends même certains sourires. Oui, le Premier ministre annonce des portiques. Oui, mais non, mais il y a besoin de mesures concrètes. Et donc là, il faut les mettre en place. C'est la même chose pour le rapport Moutchou sur les armes blanches. L'interdiction d'acheter des poignards sur des réseaux sociaux, c'est une de ces mesures. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Mais effectivement, je pense que François Bayrou, par exemple, est conscient que ces mesures ne suffisent pas non plus par rapport au problème que j'ai déjà évoqué. Le fond du problème est immense. Et donc, voilà, il faut mettre des mesures concrètes en place. Mais on reprocherait au Premier ministre de ne pas mettre ces mesures concrètes en place. C'est comme, je fais une analogie, mais c'est comme si on a une inondation, par exemple, vous êtes inondé, et que le maire vous dit qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez au moins mettre route barrée sur une route. Voilà, donc ça peut paraître dérisoire, mais pour les gens qui vivent ça au quotidien, c'est des mesures qu'il faut prendre de toute façon. Voilà. Après, il y a un travail à mener sur la psychologie et le rapport aux jeunes aujourd'hui à l'autorité. Je pense que c'est le fond du problème.
On entend beaucoup les enseignants aujourd'hui. Alors, je vais faire une analogie un peu politique, un peu locale. On va parler tout à l'heure des élections municipales. Mais on voit des maires qui jettent, par exemple, qui jettent l'éponge parce qu'ils n'ont pas envie de continuer, parce que c'est compliqué, parce que parfois ils sont aussi confrontés à des incivilités, voire verbales ou physiques. On entend aussi des enseignants aujourd'hui qui jettent l'éponge, qui disent voilà, c'est trop compliqué, les jeunes sont durs. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui? À vos collègues?
C'est un constat c'est une réalité. Hein, qu'aujourd'hui, il y a, que ce soit les maires, mais aussi certains enseignants qui se disent, aujourd'hui, voilà, mon métier, moi, c'est instruire. On est formé d'ailleurs à l'instruction. Éduquer, c'est normalement le rôle des parents. Et nous, on est là pour instruire. Alors évidemment, on est là comme accompagnateur d'une éducation. Par exemple, l'éducation civique, etc. Et même en tant que construction d'adultes. Hein, donc, voilà. Mais ce sentiment de découragement, il est très profond. Beaucoup ont envie de jeter l'éponge. Et moi, j'ai envie de dire aux collègues déjà qu'il faut faire preuve de solidarité. C'est-à-dire qu'effectivement, ne jamais se laisser isoler. Quand des collègues commencent à dire que ça ne va pas, il ne faut jamais rester seul dans cette démarche. Mais effectivement, je pense que l'éducation nationale doit réfléchir aussi. On nous dit on va abaisser, par exemple, le métier, on a du mal à recruter aujourd'hui. On nous dit on va abaisser le seuil, on va passer un concours en troisième année en licence. D'accord, mais est-ce qu'on a répondu au fond du problème? Pourquoi le métier n'est plus aussi attractif? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui ne se sentent pas considérés. Le manque de reconnaissance dans ce métier qui nous demande beaucoup est une des causes de l'abandon de beaucoup de collègues dans le métier. Et donc, quand on comprendra que tout ça, c'est un ensemble, un problème de société, il faudra répondre vraiment à ces questions qui donneront aujourd'hui envie à des jeunes de reprendre le flambeau. Parce que c'est quand même un beau métier, je veux dire, la vocation de transmettre, la pédagogie, c'est quand même un beau métier. Et je pense qu'il faut qu'on revienne, quand on a un sentiment de découragement, à la vocation initiale et aux fondamentaux. Voilà, donc ne nous décourageons pas, continuons et puis soyons solidaires ensemble.
Voilà, on sent en tout cas la vocation chez vous, Tanguy Métrope. Un dernier mot, il y a aussi une inégalité, je vais y arriver, de territoire. On a des zones qui sont plus difficiles que d'autres, on pense à certains quartiers, parfois aussi dans des zones rurales. Hein. Est-ce que là aussi, il faut peut-être renforcer le nombre de professeurs, le nombre de surveillants dans les endroits où c'est un peu plus compliqué, où il y a des problèmes un peu plus importants à gérer au niveau des élèves, parfois des problèmes communautaires également?
Alors, effectivement, alors, ben, vous savez qu'il y a déjà des choses de mise en place, hein, le système REP, REP Plus, qui existe déjà. Voilà, alors, c'est vrai qu'on se sent un petit peu, des fois, les établissements scolaires se sentent un petit peu livrés à eux-mêmes. Hein. C'est vrai que les enseignants sont en première ligne, les surveillants, maintenant, on le voit, hein, on est en première ligne face à des, une société qui est... Qui ressent, il y a un ressentiment, il y a un fond de colère et de violence qui est là, qui est patent. Et donc là, en fait, les dispositifs, ils existent déjà. Et je disais, la réflexion que j'avais envie de dire, c'est on met beaucoup de lois en place, mais faire qu'un élève se sente bien à l'école, faites qu'il respecte une autorité, faites qu'il n'y ait pas ce sentiment de frustration, moi, je ne sais pas mettre ça dans une loi. Donc on peut essayer de déployer tous les dispositifs qu'on veut. Il faut vraiment que la société réfléchisse à des conditions d'un vivre ensemble qui soient plus apaisées. Et ça, on ne répondra pas à ces questions par des lois. Ça ne marchera pas comme ça.
Alors justement, la société est très fracturée. On a ce vivre ensemble qui fonctionne plus ou pas bien en tout cas. On a aussi des inquiétudes du lendemain, et là ça nous amène directement à la politique. On entend le Premier ministre hein, sur des restrictions budgétaires possibles. Il va falloir faire des économies. Alors là, la grande équation, j'ai posé très souvent la question, vous n'allez pas y échapper à mes invités, c'est comment résoudre l'équation de faire toujours mieux et un peu plus avec moins de moyens.
Alors déjà, moi, sur la question du budget hein, et en fait de la dette publique, parce que c'est ça la question, moi, je veux rappeler une petite anecdote sur le plan historique. C'est un sujet, vous savez, qui tient à cœur à François Bayrou, puisque dès sa campagne de 2007, il en avait fait le cœur de sa campagne, le déficit public. Mais il y a 20 ans, quand j'étais au lycée, à Dinan, au Cordelier, je me rappelle très bien, la rentrée de septembre, c'était en 2005, mon prof d'économie, Monsieur Chevalier, d'ailleurs, s'il m'écoute, je le salue, il nous dit, je suis très inquiet, il commence l'année par ça, je suis très inquiet, parce que la dette publique française vient de dépasser les 1000 milliards d'euros. Et évidemment, moi, à l'époque, 1000 milliards, ça claque. J'avais l'impression d'une insulte du capitaine Haddock. Mais en fait, là, c'était la dette publique. Et je crois qu'on était à 1200 milliards. Mais c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, et donc la dette publique, elle était à 60% du PIB. Aujourd'hui, on est à 3300 milliards. 113% du PIB en dette publique depuis 20 ans. Et donc là, moi je ne sais pas ce que dirait mon prof d'économie aujourd'hui, déjà qu'il était inquiet il y a 20 ans, voilà. Et donc je pense qu'il faut que les Français comprennent la situation. Et c'est pour ça que François Bayrou alerte, on dit oui, mais il alerte depuis longtemps, mais là la situation, il faut qu'on regarde les choses en face. Dans le même temps, en 20 ans, la dette publique allemande était à 60% en 2005, et elle est à 62%. C'est-à-dire qu'en fait, les Allemands ont le même niveau de dette publique. Et donc on dit, oui, mais il y a eu les crises, il y a eu le Covid, il y a les crises des subprimes, ça, oui, mais les Allemands aussi. Et leur dette publique n'a pas explosé. Donc là, il faut vraiment que les Français regardent les choses en face. On ne peut pas continuer comme ça.
La France vit au-dessus de ses moyens, on l'aura compris. Déjà, en 1976, Raymond Barre, alors Premier ministre, avait fait ce constat à la télévision, ce qu'il l'avait voué aux gémonies d'ailleurs, à l'époque, en disant qu'il faudra serrer la ceinture parce que la France vit au-dessus de ses moyens. C'est dangereux de vivre au-dessus de ses moyens aujourd'hui?
Forcément oui, parce que les marges de manœuvre sont réduites. Mais vous citiez Raymond Barre, en plus c'est le dernier Premier ministre à avoir fait voter un budget à l'équilibre. Donc on est quand même dans les années 70. Voilà. On pourrait faire l'analogie avec un ménage, en fait, des parents. C'est comme si les parents disaient, j'ai laissé tant de dettes, j'ai pris tant d'emprunts pendant 20 ans, et puis après moi le déluge. Mais derrière, qui va trinquer? C'est les enfants, derrière. Et donc je pense que c'est pour ça que je trouve que François Bayrou a raison. On dit, de poser la question sur le plan moral. Est-ce que c'est moral de laisser ça, cette ardoise, aux générations futures?
On parlait des jeunes générations, justement, c'est elles qui vont payer finalement nos dérives budgétaires.
Donc le poids, c'est pas sans cause, hein, le déficit public, mais le poids, en fait, effectivement, de cette dette pour les générations futures, c'est trop lourd. Et déjà, les générations futures, les jeunes ont beaucoup de problèmes déjà aujourd'hui. Donc si en plus on leur rajoute ceci, entre la dette climatique, le réchauffement climatique, le changement climatique, plus la dette économique, donc on ne peut pas continuer comme ça. Alors il va falloir faire des choix. Et j'écoutais Éric Lombard, le ministre de l'économie, dimanche. Gouverner, c'est être impopulaire. Donc c'est sûr que les choix vont pas être faciles. Évidemment, il y a deux leviers, mais on sait très bien, le budget, c'est des recettes. et c'est des dépenses. Il faut quand même dire que même si on a le taux de prélèvement fiscal le plus élevé d'Europe, je pense qu'il y a quand même une question sur les recettes au niveau de la justice fiscale qui se pose. Mmh. Parce que depuis Nicolas Sarkozy, fait, vous savez, le fameux bouclier fiscal, on ne doit pas nous prendre plus de la moitié que ce qu'on gagne. Effectivement. Mais sauf que, en fait, en réalité, et vous vous rappelez de Serge Gainsbourg, voilà, je me rappelle, à l'époque de Raymond Barre, quand il brûle son billet, qui avait scandalisé tout le monde, il brûlait son billet à 70-75%. Mmh. Or, aujourd'hui, effectivement, avec le bouclier fiscal, on était rendu sur certains prélèvements fiscaux autour de 50%. Donc, il y a quand même une question des recettes, de la justice fiscale. Mmh. Je pense que ça, c'est quelque chose qui tient à cœur à Éric Lombard. Et puis après, effectivement, il y aura des dépenses. Mmh. Et donc, moi, je n'ai pas de scoop à vous annoncer aujourd'hui quels vont être les arbitrages. Mais je pense que François Bayrou a proposé une méthode qui me paraît intéressante. C'est que, par exemple, dans l'administration, différencier l'administration de papier de l'administration de service. Par exemple, un enseignant, il rend un service. Mmh. Mais toute la démarche administrative derrière, etc., qui parfois est labyrinthique, qui parfois est fastidieuse dans le traitement des dossiers, dans la durée, est-ce qu'on ne peut pas gagner en efficacité? Y compris, par exemple, sur des questions comme le handicap. Mmh. Moi, je suis reconnu en situation de travailleur handicapé. C'est les 20 ans de la loi handicap. J'ai fait 2 dossiers en 10 ans. Il y a 10 ans, c'était 12 pages, 15 pages. Là, je suis rendu à 25 pages de dossiers handicap.
Et c'est bon. Dans tous les domaines, effectivement, on complexifie, on complique les choses. On entend d'ailleurs les Français qui demandent, qui appellent de leur vœu une simplification, là aussi qui pourrait faire des économies. Et on entend certains partis politiques qui disent aussi, faut prendre aux riches, voilà, vous suivez un peu mon regard, faut prendre aux grandes fortunes, faut leur demander de participer à l'effort national. Est-ce que c'est une bonne idée finalement?
Oui, ben non, mais c'est un sujet qui revient régulièrement dans le débat public. En fait, si le fait que le prélèvement fiscal élevé pour les plus grandes fortunes permettait de résoudre tous les problèmes, bah, la France, elle n'aurait pas de déficit public. Mmh. Parce qu'on est les champions du monde du prélèvement fiscal. Donc je pense qu'il faut faire attention aux mesures trop simplistes. Par contre, la question de la justice fiscale, je pense que c'est important. Mmh. Il y a aussi des questions, alors sujet un peu tabou, mais les questions de l'impôt sur les successions. On voit qu'on est de plus en plus dans une économie d'héritage, alors que les Français se disent « Oui, mais attention, moi, ce que j'hérite de mes grands-parents, de mes parents, j'y tiens. » Oui, mais attention, de quel montant on parle? Dans quelle proportion? Donc je pense que pour toute personne qui est attachée à une forme de libéralisme politique, comme c'est le cas chez nous au centre, c'est pas pour faire une économie de rentier. Mmh. Et ça, je pense que c'est une question qu'on a le droit de poser dans un débat budgétaire. On a le droit de poser ces questions. Donc j'attends avec impatience quand même les arbitrages, parce que je pense qu'il y aura des sujets qui vont sortir et qui seront intéressants.
Est-ce que ça peut finalement, le franc-parler de François Bayrou, de dire aujourd'hui, ça ne va pas, il va falloir faire des économies. Je reprends la formule, il n'a pas dit un stéré mon bar, hein, il va falloir un peu serrer la ceinture en quelque sorte. Et est-ce que ça peut lui coûter quand même son gouvernement? Parce qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de motion de censure, elle revient un petit peu sur le devant de la scène.
Alors, la motion de censure, c'est un peu le serpent de mer du gouvernement de François Bayrou depuis qu'il a été nommé. Effectivement, on sait que ça, c'est la question effectivement du budget qui a fait tomber Michel Barnier. Bon, pour l'instant, François Bayrou, il a réussi à faire passer 2 budgets. On lui donnait 3 semaines. Là, il est là, il est toujours là. Hein, voilà, depuis le 13 décembre, il est toujours là. Donc, il a eu 6 motions de censure. Il a fait passer 2 budgets, dont un budget de la sécurité sociale. Donc, faut pas l'oublier. Mmh. Il y en aura sans doute d'autres, mais effectivement, il y a un risque. Alors là, je pense qu'il faut quand même mettre chaque parti politique et formation politique devant ses responsabilités. Est-ce qu'on peut se permettre encore une censure et de ne pas faire passer un budget dans le contexte qu'on connaît? Après, la main est aussi au Parlement. Est-ce que le Parlement est prêt à faire des efforts? On écoutera les propositions de chacun, et vous savez que la culture du centre, c'est aussi la culture du compromis. Et donc j'espère qu'on arrivera cette fois encore à faire passer le budget sur un compromis qui me paraît équilibré. Dans un contexte difficile, mais on peut trouver un compromis équilibré.
Alors, il y a des élections qui se profilent. Je ne vous apprends rien en disant que 2026, eh bien, on aura les élections de ceux qui sont finalement et de celles qui sont au plus près des administrés et des habitants, à savoir les maires. Et puis, on aura la fameuse élection maire de toutes les élections, dit-on, l'élection présidentielle en 2027. J'imagine que du côté du MoDem, on prépare déjà ces échéances.
Absolument. Donc, on s'est réunis à Pontivy le 19 mai dernier. pardon, le 24 mai dernier, on s'est réunis à Pontivy pour une convention régionale du MoDem. On a posé plusieurs sujets sur la table. On a posé plusieurs sujets. On a posé la question du logement, qui est une vraie question, mais qui derrière, il y a un fond du problème qui va concerner les maires, c'est la question de l'équilibre des territoires. Mmh. Et ça, je pense que nous, au centre, c'est vraiment ce qu'on a envie de développer comme idée aujourd'hui. C'est que depuis les dernières réformes de l'aménagement du territoire, les lois NOTRe et les lois MAPTAM de 2014, on a un déséquilibre territorial qui pose un certain nombre de problèmes aux maires. Mmh. Et dans le cadre des logements, c'est évident. On disait, par exemple, un de nos députés, Michael Cosson, que vous connaissez bien ici, député de la première circonscription des Côtes-d'Armor, disait aujourd'hui, on vide l'emballe pour remplir Rennes. Bon, bah, ça porte un nom. Ça s'appelle la métropolisation. Et ça, le fait de tout concentrer dans les grandes métropoles en France, c'est un problème parce que ça déséquilibre les territoires. Et donc moi, je pense que là, avec la création des grandes agglomérations maintenant depuis la loi NOTRe et MAPTAM, le renforcement des métropoles comme Rennes Métropole, etc., aujourd'hui, c'est un sujet. Et donc, effectivement, on ne posera peut-être pas la question du millefeuille territorial, mais il y a quand même une vraie question de savoir qui a le pouvoir et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rééquilibrer les territoires.
Il faut repenser les territoires et les domaines de compétences des différentes collectivités.
Je pense absolument que renforcer le pouvoir du maire, ça me paraît essentiel. Plus que les agglomérations aujourd'hui, et on vit sur un espèce de faux semblant. Les gens connaissent leur maire, les citoyens connaissent leur maire, mais en fait, des fois, le pouvoir est à l'agglo. Et donc là, effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on reclarifie, on remette à plat un petit peu tout ça, pour montrer vraiment que le maire a les moyens de l'action publique, et surtout qu'il peut répondre aux questions que les citoyens se posent. Parce que les citoyens, ils vont pas voir le président de l'agglo. Les citoyens vont voir le maire. Et donc là, je pense que là, il y a une vraie question démocratique à renforcer le pouvoir du maire en clarifiant les compétences et en allant vers le rééquilibre des territoires. Donc pour nous qui sommes attachés à la décentralisation, nous, le centre, je pense que c'est vraiment un enjeu de ces élections municipales.
Il nous reste deux petites minutes à peine. On voit la montée du Rassemblement National, y compris ici en Bretagne, qui n'est pas forcément à l'origine sa terre d'élection et de prédilection. Ça veut dire aussi qu'il y a une attente qui n'est pas forcément satisfaite par les politiques en place aujourd'hui. Est-ce qu'il faut être vigilant? Est-ce qu'il faut répondre? Et répondre vite là aussi, pour éviter de voir le Rassemblement National finalement peut-être s'installer à la tête de certaines villes, de certaines communes?
Ça a été un de nos sujets à la convention de Pontivy. Une des causes de la montée du Rassemblement National en Bretagne, parmi d'autres, hein, parce que c'est complexe, mais effectivement, ils sont montés à plus de 30% en moyenne, c'est l'impuissance publique. Et donc ça, là, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça, à pas donner un sentiment d'impuissance publique, parce que le vote protestataire aujourd'hui, il est récupéré par le Rassemblement National. Alors, ce sera pas facile, parce que le vote de colère, le vote sanction, aujourd'hui, c'est eux qui arrivent à le récupérer. Mais je pense, dans les sujets que j'ai évoqués, la question de l'équilibre des territoires, pas laisser des zones blanches, pas laisser des zones enclavées. Ça, c'est des réponses qu'il faudra porter. Et puis, une autre question qui est électorale, c'est la question de la proportionnelle. Et je voudrais dire... Juste dire un mot pour ceux qui s'impatientent en disant que c'est une des grandes promesses de François Ayrou. Eh bien, on a pu questionner nos députés, Erwan Balanant, Jimmy Pain et Michael Cosson, et puis Marie-Pierre Vidrenne, qui est notre députée européenne. Mais le projet est dans les cartons, donc on aura sans doute un projet de loi proportionnelle pour la rentrée de septembre, si tout va bien, et sur un projet de loi de 1986, un petit peu ce qui s'était... Voilà. Et donc, quand le vote... Avec la proportionnelle, chaque vote des citoyens compte. Et donc là, je pense qu'effectivement, avec cette loi proportionnelle, je pense que le désamour un petit peu électoral, le ras-le-bol électoral, pourra être mieux compris avec un autre système électoral, qui est le système que tous les 27 pays de l'Union européenne pratiquent, exception la France. Donc je pense que là, cette loi proportionnelle, moi je l'attends avec impatience, et je pense que ça réglera aussi une partie de la frustration démocratique qui règne actuellement dans le pays.
Voilà, il fera peut-être diminuer l'abstention parce que il y a aussi ce problème d'abstention. Merci infiniment Tanguy Métrop d'être venu en direct ce matin au micro de la matinale de Bretagne 5 pour parler politique et actualité. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national du MoDem pour la Bretagne. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.